biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes Mancelles 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpes Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes Mancelles.
Chers auditeurs, bonjour! Aujourd'hui, au sommaire de votre Bio Écomag, les brèves de la semaine, suivies de la chanson « Quand » des Trois Cafés Gourmands, puis de votre chronique « Énergie » dans lequel nous parlerons du développement des énergies vertes, puis d'un extrait de « Je tomberai pas » de Christophe Willem. Ce sera ensuite l'heure de votre chronique « Santé et alimentation » avec comme sujet du jour le système d'étiquetage nutritionnel, aussi appelé Nutri-Score. Suivi d'un extrait d'Encore une fois de Patrick Bruel, puis de votre chronique Biodiversité sur le déclin des populations d'animaux vertébrés, viendra la chanson Laisse aller de Claudio Capello, puis de notre interview avec Monsieur Morel, responsable du musée vert du Mans. Ça sera alors la fin de votre magazine et le moment de se dire au revoir. Dans les brèves de cette semaine, le groupe suisse Migros a lancé un nouveau type de dosette de café sous forme de boule entièrement compostable qui pourrait bouleverser le marché des capsules, choisissant la France et la Suisse pour débuter la commercialisation de ces machines. Ces dosettes de café se présentent sous forme de boules de café compressées, recouvertes d'une fine pellicule à base d'algues qui permet de se passer d'emballage en aluminium ou en plastique. Les machines sont aussi fabriquées en partie à partir de matériaux recyclés. 26% de l'Amazonie détruite à jamais. Alerte rouge. En Amazonie, 26% de l'écosystème du poumon vert de la planète est irréversiblement détruite à cause de la déforestation, du narcotrafic et de la contamination, ont averti les dirigeants indigènes réunis à Lima au Pérou. Les gouvernements ont dit qu'ils sauveraient l'Amazonie, mais au vu de ces chiffres, force est de constater qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, a affirmé le chef du peuple Wakunai Kuripako. Le chiffre homme-femme 286 ans avant l'égalité. Au rythme actuel, il faudra près de 300 ans pour parvenir à l'égalité homme-femme, a regretté l'ONU, estimant que les multiples crises actuelles aggravaient les disparités entre les sexes. Au rythme actuel des progrès, il faudra jusqu'à 286 ans pour que les lacunes en matière de protection juridique et la suppression des lois discriminatoires soient comblées, estime l'agence onusienne ONU Femmes et le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.
Le printemps c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps.
Dis, c'est quand? Dans combien de temps? Est-ce demain, après-demain? Ça fait trop longtemps qu'on attend.
Est-ce bientôt?
Jamais.
Mais quand?
Quand? L'égalité quand? C'est quand l'union de celles et ceux divisés pas si différents.
Dis c'est quand, mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur en vaut la danse.
Y'a que des gagnants dans ce
quand. La conscience quand? Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
Oui, mais quand? Reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance? Ne plus jamais
demander quand.
Mais nous c'est maintenant. Mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant. Des maintenant, maintenant. Tout le temps c'est urgent. Mais nous c'est maintenant. On n'a plus le temps. Offenser nos pensées.
paix, c'est pour quand?
C'est dans nos livres et nos chansons.
Mais c'est jamais la bourre de bon.
Dis, c'est quand? Mais qui nous entend? L'accord, l'harmonie, la raison.
N'est-ce qu'un rêve, une illusion?
La fin du sang des gens.
Mais quand? La sagesse quand? L'âge de raison, l'âge de courage.
Mais qui sommes-nous vraiment? Dis, c'est
quand? Le discernement, la prudence avant le jugement. Un jour enfin plus tolérant. Oui, mais
quand? La justice quand?
Combien de discours en avant, demi-tour?
Quand? Moi j'ai plus le temps. Ça fait trop longtemps qu'on attend.
Et nous c'est pour quand?
Mais nous c'est maintenant. Mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant, dès maintenant, maintenant, tout le temps c'est urgent, oui nous c'est maintenant.
Dans votre chronique Énergie, le développement des énergies vertes décolle enfin. Dans son dernier rapport, l'Agence internationale de l'énergie anticipe une hausse de 12% des investissements dans les renouvelables en 2022 comme en 2021. Depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, leur croissance plafonnait à 2% par an seulement. Cela reste insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques, néanmoins, c'est un premier pas dans la bonne direction, souligne le rapport. Avec cependant un bémol, la hausse des prix des matériaux et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ont fait grimper de 10 à 20% le coût des parcs éoliens et solaires, et ces coûts constituent un frein supplémentaire pour les pays en développement. Le solaire et l'éolien restent des technologies de production d'électricité les moins chères, tempère l'Agence internationale de l'énergie, qui pointe le risque d'une facture énergétique entre les pays occidentaux et la Chine, où se concentrent les projets renouvelables et le reste du monde. Autre mauvaise nouvelle, les investissements dans les énergies fossiles ont eux aussi progressé de 10%, même s'ils restent en dessous de leur niveau d'avant-pandémie. La reprise ne concerne pas tant le pétrole, où les montants investis par les majors occidentaux restent limités malgré l'envol du prix du baril, que le charbon. En Chine, 15 gigawatts de nouvelles capacités ont été installées au cours du seul premier semestre 2022. Le pays s'était pourtant engagé à réduire l'usage du charbon.
L'ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds, je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau, la galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur, je laisserai personne sur le carreau.
Dans votre chronique Santé Alimentation, à la suite d'une demande du ministère des Solidarités et de la Santé, Santé Publique France a créé un système d'étiquetage nutritionnel à l'avant des emballages, le Nutri-Score, qui peut être apposé par les producteurs sur leurs produits sur la base du volontariat. Le Nutri-Score a été développé pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles pour les consommateurs et ainsi de les aider à faire des choix éclairés. Mais qu'est-ce que le Nutri-Score, allez-vous me dire ? Le Nutri-Score a été mis en place pour la première fois en France en 2017 et depuis son lancement, plusieurs pays ont décidé de recommander son utilisation. Par exemple, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais concrètement, le Nutri-Score, c'est quoi ? Il s'agit en fait d'un logo apposé en face avant des emballages qui informe sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire qui est, elle, fixée par la réglementation européenne. Elle est basée sur une échelle de 5 couleurs, du vert foncé au orange foncé, qui est associée à des lettres allant de A à E pour optimiser son accessibilité et sa compréhension par le consommateur. Le logo est attribué sur la base d'un score prenant en compte pour 100 g ou 100 ml du produit la teneur en nutriments et aliments à favoriser. Donc là on parle de fibres, de protéines, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, huile de colza, de noix et d'olive. Et en nutriments à limiter, énergie, acides gras saturés, sucre et sel. Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Sachez que le droit d'utiliser le Nutri-Score est délivré gratuitement. Les entreprises souhaitant utiliser celui-ci doivent simplement s'enregistrer sur une des plateformes dédiées. Dans un rapport remis au comité de pilotage fin juin 2022, le comité scientifique a proposé une combinaison de modifications de l'algorithme de calcul pour les aliments solides qui a été approuvé le 26 juillet. Les évolutions proposées renforceront ainsi l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments en cohérence avec les recommandations alimentaires des différents pays et ainsi guider les consommateurs vers des choix alimentaires plus favorables à leur santé. Par ailleurs, ces évolutions répondront à plusieurs préoccupations de parties prenantes. Sachez enfin que ce rapport sera complété en fin d'année 2022 par un rapport sur l'algorithme des boissons.
Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois. Encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore une fois, encore plus fort. Toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois.
Dans votre chronique Biodiversité, le déclin des populations d'animaux vertébrés s'aggrave selon l'organisation non gouvernementale WWF. Tous les deux ans, la conclusion demeure tristement identique. Les populations d'animaux vertébrés déclinent. Dans son nouveau rapport Planète Vivante, le WWF appelle à fixer le cap vers un bilan nature positif en 2030 pour inverser la tendance. La taille de près de 32 000 populations de 5 230 espèces vertébrées, terrestres, marins ou d'eau douce s'est réduite en moyenne de 69% entre 1970 et 2018. Calculé tous les deux ans, ce chiffre, l'indice Planète Vivante, IPV, s'élevait à 68% en 2016 et à 60% en 2014. Rien n'indique que la perte de la nature puisse être enrayée, encore moins inversée, souligne le WWF dans son rapport publié le jeudi 13 octobre. La tendance au déclin des populations de vertébrés se poursuit malgré une série d'engagements des secteurs publics et privés. La situation est certes dramatique, mais pas désespérée. Les exemples qui fonctionnent sont nombreux. Les aires protégées et gérées par les communautés locales montrent une biodiversité florissante. La restauration des écosystèmes par les solutions fondées par la nature est bénéfique pour la biodiversité et aussi pour le climat. La transformation de nos modes de production et de consommation a débuté, même si elle n'est pas assez rapide, affirme néanmoins Véronique Andrieux, directrice générale de WWF France. En écho aux efforts réalisés en Amérique du Nord ou en Europe, dont les IPV régionaux ne dépassent pas les moins 20%. Cependant, malgré les disparités, le rapport est clair. Le déclin de la biodiversité est planétaire. Les populations de toutes les espèces dulcicoles, par exemple, se sont réduites de 83% en 50 ans. Et le réchauffement climatique continuera d'accentuer cette tendance. Chaque degré supplémentaire devrait accroître ces pertes et leur impact sur les populations. En amont de la COP15 de la biodiversité prévue à Montréal du 7 au 19 décembre, prochain, l'ONG milite ainsi pour qu'un engagement vers un bilan nature positif d'ici à 2030 soit pris, sorte d'équivalent pour la biodiversité de l'accord de Paris. Dans cette optique, elle encourage l'instauration d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins et la suspension de toutes les subventions dommageables de la biodiversité. il est primordial de parvenir au même degré d'implication que nous commençons à observer autour de l'action climatique. Martel Marco Lambertini, directeur général du WWF International.
Elle me dit, dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde t'attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Post-café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout foule le camp sur notre terre. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête, depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon, c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse, laisse aller.
Quand ça ne va pas, et si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller.
À présent, recevons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM, Monsieur Nicolas Morel, responsable du musée Vert du Mans, qui vient nous présenter la nouvelle exposition présente sur le site. Monsieur Morel, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de commencer cet échange en nous présentant le musée Vert.
Alors, le musée Vert est le muséum d'histoire naturelle de la ville du Mans, qui est situé dans les quartiers sud de la ville, au 204 de l'avenue Jean Jaurès. Donc, on conserve des collections en lien avec les sciences de la nature. Donc, les animaux, les plantes, les fossiles. Près de 400 000 spécimens en tout au sein des collections, qui sont présentés dans des salles permanentes, l'une qui est consacrée à la faune de la Sarthe et l'autre à l'histoire géologique de notre département. Et puis nous avons également un espace où nous pouvons accueillir des expositions temporaires, dont en ce moment l'exposition géant au temps dinosaure.
Et à qui vous adressez-vous ?
Comme tous les musées de la ville du Mans, nous adressons à tout le monde. Alors bien évidemment, dans un musée lié à la nature, un musée d'histoire naturelle, on a un public qui est très familial. En semaine, on reçoit beaucoup de scolaires. Et puis les week-ends, les mercredis ou pendant les vacances, ils reviennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. C'est vraiment un musée qui est adapté à tout type de public qui peut être intéressé par les sciences ou les connaissances de la nature ou tout simplement la curiosité.
Et comment choisissez-vous les sujets de vos expositions ?
Alors c'est très variable. En général, on va essayer de valoriser une partie des collections qui ne sont pas exposées de façon permanente, parce que actuellement au sein du Musée Vert, nous avons une surface d'exposition qui n'est pas très importante par rapport à l'immensité des collections. Et donc on choisit un thème qui va permettre de mettre en valeur plus fortement justement des objets qui sont généralement en réserve. C'est un petit peu le cas de l'expo géant. Après, il y a d'autres possibilités en fonction de l'actualité scientifique. On a essayé tout au long de l'histoire du Musée Vert de varier énormément les sujets qui ont été abordés. On a eu une expo sur le loup, on a eu une expo sur les papillons, sur les prédateurs, sur l'évolution. À chaque fois, on essaie de changer d'univers, on va dire, pour que le public découvre des nouveaux pans des collections qui n'ont pas été présentés jusqu'à présent.
Vous accueillez depuis le 17 septembre et ce jusqu'au 31 juillet 2024 l'exposition Géant. Parlez-nous un peu de celle-ci.
Oui. Alors l'exposition Géant autant dinosaures, son objectif c'est de présenter justement des collections qui n'étaient pas connues pour l'instant du public. On remonte le temps jusqu'au Mésozoïque, donc la période des dinosaures, et en partant du local, de la région du Mans et de la Sarthe, qui à l'époque est sous l'eau, donc avec une faune marine. Et on va s'attacher sur cette exposition à parler des vertébrés, donc plutôt des grands reptiles marins qui étaient présents à cette époque-là. Mais même si globalement, au niveau du Mans, nous sommes sous l'eau, hein, c'est une mer peu profonde, il y a un continent qui n'est pas très loin. Hein, au Mésozoïque, au Jurassique, une grande partie du Crétacé également, le climat mondial est beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et donc le niveau des océans est plus élevé, entre 50 et 150 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Donc l'essentiel du nord de la France est sous l'eau, donc l'essentiel de la Sarthe également, mais il y a des massifs montagneux qui, eux, vont former des îles. Alors c'est le cas par exemple du Massif Central ou des Vosges. Puis plus près de nous, nous avons ce qu'on appelle le Massif Armoricain, c'est-à-dire en gros la Bretagne plus une partie de la Basse Normandie qui va former une île. Donc pour simplifier, Persène, Sillé, les Alpes Mancelles, la région de Sablé-sur-Sarthe, toutes ces régions étaient plutôt sur le littoral oriental de cette île armoricaine. Et donc sur ces zones-là, sur ces zones terrestres, on avait la présence de dinosaures. Hein. Les dinosaures, je le rappelle, c'est uniquement des animaux terrestres. Et puis certains dinosaures ont évolué en oiseaux volants. Mais dans les océans, dans les mers, on a des reptiles différents qui sont souvent associés aux dinosaures par le grand public, mais qui, du point de vue de l'évolution, sont un petit peu différents. Donc voilà, c'est ce qu'on présente de façon générale. Et puis ensuite, on rentre un petit peu dans le détail avec notamment de très grands spécimens. La vedette un petit peu de l'exposition, c'est un élasmosaure. Alors c'est un nom un petit peu compliqué, mais il faut imaginer un reptile marin à long cou qui est un peu connu du grand public parce que les premiers élasmosaures ont été découverts au 19e siècle en Angleterre et ils sont à l'origine du mythe du monstre du Loch Ness qui apparaît plutôt au début du 20e siècle. Donc je pense que tout un chacun a en tête ce à quoi, dans l'esprit un peu imaginatif des gens de l'époque, ce à quoi ressemblait ce monstre du Loch Ness. Et ben, on a pris très exactement, on a utilisé très exactement un fossile d'élasmosaure pour l'imaginer. Donc on a cet animal qui mesure 5 mètres de longueur, qui a été découvert à Saint-Rémy-du-Val, dans le nord du département de la Sarthe. Il mesure 5 mètres de longueur. Alors c'est une découverte ancienne, hein. Il a été découvert en 1863 et donné très rapidement au musée du Mans. Mais ce qui a été découvert, c'est uniquement sa colonne vertébrale. Donc il était assez peu compréhensible et lisible pour le public. Donc pour l'exposition, il a été entièrement restauré à partir d'un autre élasmosaure du même âge qui a été découvert dans le sud de la France. En fait, ce second élasmosaure a été scanné et les ossements manquants en fait ont été imprimés par un restaurateur, ce qui permet d'obtenir en fait un squelette complet de l'animal, de son allure et voilà, c'est un petit peu l'introduction de l'exposition. C'est un petit effet choc parce que l'animal est quand même ce reptile est quand même tout à fait impressionnant par sa taille. Et donc il était vraiment présent donc au Jurassique. Pour l'élasmosaure de Saint-Rémy-du-Val, on est à peu près à moins 160 millions d'années. Et c'était un des prédateurs de l'époque.
Donc une exposition axée sur les dinosaures ou sur les vertébrés ?
Des vertébrés, du groupe des reptiles, principalement des reptiles marins, et puis également des dinosaures. La difficulté avec les dinosaures, c'est que donc ils vivaient en milieu terrestre. Et les roches qu'on découvre, qui sont présentes, qui forment le sous-sol de la Sarthe, elles se sont uniquement formées en milieu marin. Donc ça correspond à une différence géographique. Donc les dinosaures qui vivaient en milieu terrestre, ils ont dû être transportés jusqu'au milieu marin. Ce qui fait qu'en fait, ils sont extrêmement rares. Il faut imaginer un dinosaure, un grand carnivore par exemple, qui va mourir en milieu terrestre, et puis pour une raison ou pour une autre, son corps est emmené par une rivière jusqu'à un fleuve, et le fleuve va s'écouler jusqu'à la mer. Donc déjà, Il faut un concours de circonstances. Une fois en mer, il va flotter, il va être sans doute mangé par des poissons, par des reptiles marins. Les ossements qui sont plus résistants vont couler au fond de la mer, ils vont être mélangés par les courants. Ce qui signifie qu'en fait, on n'a quasiment aucune chance de trouver un dinosaure complet hein, dans des sédiments marins. Et puis que ce sont des événements très rares. Dans toute l'exposition, on a 4 restes de dinosaures qui ont été retrouvés en Sarthe, localement, en 200 ans. Hein. Les collections du Musée Vert, elles commencent à la fin de la Révolution française. Et il y a eu beaucoup de découvertes au 19e siècle, à l'époque où on a construit les lignes de chemin de fer, les routes nationales. Il y a eu également des découvertes plus récentes, notamment sur les grands chantiers autoroutiers de la fin du 20e siècle. Mais ça ne représente que 4 individus, donc c'est quand même très faible. Ça permet pas vraiment de connaître les faunes de dinosaures présentes à l'époque. Mais c'est tout de même important. Alors ce sont souvent des vertèbres, hein, c'est des os qui sont très incomplets. Donc c'est le travail du paléontologue de savoir à partir d'une vertèbre reconnaître plutôt un dinosaure carnivore ou un grand herbivore, mais il peut pas aller jusqu'à la définition de son espèce, on va dire. Mais bon, néanmoins, ça permet de confirmer que le continent était présent à proximité et de savoir également que les quelques dinosaures qui ont été retrouvés, en fait, ils sont extrêmement proches de leurs équivalents nord-américains aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que au Jurassique et au début du Crétacé, l'océan Atlantique n'est pas encore ouvert. La Terre, c'est une planète qui est vivante. Il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques qui fait bouger en permanence les continents et faire varier la forme des océans. Bon bah l'ouverture de l'Atlantique Nord, elle s'est faite plutôt à la fin du Crétacé. Donc avant, l'Europe et l'Amérique du Nord étaient liées et donc on avait les mêmes faunes. Et l'avantage c'est que en Amérique du Nord, ils ont des conditions différentes de fossilisation et ils ont eu la chance de retrouver beaucoup plus de dinosaures complets, en fait. Donc c'est à partir des dinosaures d'Amérique du Nord, dont on présente certains spécimens également dans l'exposition, que l'on peut, en fait, non pas imaginer, mais extrapoler, en fait, sur les espèces qui étaient présentes localement. Donc à chaque fois dans l'exposition, il y a un aller-retour entre ce qui a été réellement trouvé localement et puis les formes proches géographiquement à l'époque, même si aujourd'hui ce sont les États-Unis, ce qui permet également de présenter des grands dinosaures assez impressionnants pour le public.
Un sujet aussi qui fascine de plus en plus et particulièrement les jeunes.
Effectivement, le dinosaure a une place particulière dans l'imaginaire des enfants parce qu'il se rapporte quelque part un petit peu au phénomène du monstre, voilà, la créature mythique qui en fait a une base scientifique réelle, qui en plus intéresse les scientifiques, qui nous dit beaucoup de choses sur l'histoire de l'évolution de notre planète, de l'évolution de son climat, qui a disparu dans des circonstances qui sont restées également longtemps mystérieuses, maintenant elles sont relativement bien connues, et puis qui reste également avec un dernier mythe, c'est celui de l'extinction complète des dinosaures il y a 66 millions d'années, ce qu'on répète toujours dans nos expositions. Les oiseaux, ils sont apparus au sein d'un groupe de dinosaures carnivores, qu'on appelle les théropodes, auxquels appartenaient le grand tyrannosaure, par exemple, ou le spinosaure, enfin les plus grands dinosaures prédateurs. Et donc, on sait que chez la plupart de ces dinosaures carnivores, la peau était intégralement recouverte de plumes. Ces plumes, elles ne sont pas du tout apparues au départ pour le vol, elles sont apparues probablement plutôt pour se protéger du froid. Une couverture de plumes, ça permet vraiment justement une très bonne protection. Et puis secondairement, ces plumes colorées ont permis sans doute d'avoir des comportements de parade, de communication entre les animaux. Et c'est très secondairement chez les plus petites espèces, les plus petites formes, qui étaient à peu près de la taille d'un pigeon ou d'une dinde, ces plumes ont pu être utilisées pour le développement du vol. Et donc ensuite, les oiseaux sont devenus de plus en plus nombreux au Jurassique, au Crétacé, beaucoup plus variés qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'oiseaux qui avaient des mâchoires avec des dents, par exemple. Et une toute petite partie de ces oiseaux vont survivre à la grande extinction d'il y a 66 millions d'années et vont ensuite évoluer jusqu'aux oiseaux modernes. Mais un petit peu, je fais toujours la comparaison avec, par exemple, les chauves-souris. Les chauves-souris, ce sont des mammifères, comme nous, mais très modifiés parce que ce sont des mammifères volants. Le groupe des baleines ou des dauphins, ce sont également des mammifères. Ils nous ressemblent pas du tout parce qu'ils sont adaptés à un milieu particulier, le milieu aquatique. Mais il n'empêche que, pour un scientifique, ça reste toujours des mammifères. Bah, le principe est le même pour les oiseaux. Ils sont très différents, ils sont beaucoup plus petits que les grands dinosaures du Mésozoïque, mais biologiquement, ça reste bien évidemment des dinosaures. Donc, les dinosaures n'ont pas intégralement, ne se sont pas intégralement éteints il y a 66 millions d'années.
Des visites guidées sont également prévues. Je vous laisse peut-être nous donner les dates jusqu'à la fin de l'année, si vous les avez.
Oui, alors il y aura des visites effectivement dans les prochaines semaines. La prochaine aura lieu le 23 octobre. Ensuite, on en aura régulièrement. Donc le 23 octobre, ce sera un dimanche. Il y aura le dimanche 20 novembre. Ensuite, on sera sur les vacances de Noël, le mercredi 28 décembre. Et ensuite, on sera au mois de janvier, le dimanche 15 janvier. À chaque fois, on est au milieu d'après-midi, soit 14h30, soit 15h. Bon, ce sont des informations qui sont disponibles sur le site internet de la ville du Mans.
Le reste du temps, l'exposition sera ouverte au grand public en période de vacances scolaires. Et comme vous le disiez,
tout
vous recevez autrement des élèves tout au long de l'année.
Tout à fait. Effectivement, les musées du Mans sont tous ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et les musées du Mans sont intégralement gratuits en visite libre. C'est important de le préciser. On peut venir librement visiter, revisiter si on le souhaite, ou emmener sa famille pour visiter. Ça n'engage à rien financièrement.
Avant de nous quitter, je vous laisse peut-être nous rappeler les contacts du musée Vert du Mans.
Oui, donc vous pouvez téléphoner à l'accueil donc qui est disponible aux horaires d'ouverture au 02 43 47 39 94 ou aller directement, vous pouvez taper Musée Vert sur internet et vous arriverez normalement sur la page correspondante, ou sinon vous passez par le site de la ville du Mans, en fait, qui héberge les pages consacrées au musée de la ville et qui présente l'actualité des musées, les expositions qui sont actuellement présentées et évidemment toutes les animations à venir.
Monsieur Morel, je vous remercie pour votre participation sur notre antenne et je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et voilà, nous arrivons à la fin de votre BioEcomag, votre magazine d'informations sur les différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire. Retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet, ou contactez-nous au 02 43 33 15 15, 02 43 33 15 15. Et bien sûr, continuez d'écouter Radio Alpes-Mancelles au 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe, Alpes-Mancelles. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans votre BioEcomag.